Journaliste, fin gastronome et écrivain, Ávalo Cunqueiro est universellement reconnu comme le précurseur du réalisme magique. Cette promenade vous offre la formidable occasion de découvrir l'aura mystique et culturelle qui entoure Mondoñedo.
Bonjour, je m'appelle Rula. Je vais être votre guide le temps de cette visite. Je suis née à Mondoñedo en 1981, le jour de l'enterrement d'Álvaro Cunqueiro dans le vieux cimetière. Je ne l'ai donc pas connu, mais j'ai entendu de nombreuses histoires sur ses aventures dans la ville. Ma famille a toujours dit que c'était un homme sociable qui aimait flâner, se promener et fréquenter les tavernes. Il était loquace et aimait discuter avec tout le monde. Il pouvait lui arriver de vous arrêter dans la rue, de vous taper sur l'épaule et d'inventer une quelconque histoire chemin faisant. C'était un homme désintéressé et lorsqu'il avait de l'argent, il s'en défaisait avec une facilité étonnante en invitant tout le monde. Le ton de sa voix était profond, de ceux que l'on n'oublie pas. Cunqueiro disait que les villes dont il parlait dans ses œuvres étaient à peu près toutes inspirées de Mondoñedo. Ça lui était bien égal si la ville natale d'Ulysse était grecque ou si le sous-chantre rentrait avec les âmes dans une cité bretonne. Il avait toujours en tête Mondoñedo. Cunqueiro inventa une manière très particulière de voir et sentir Mondoñedo qui façonna la conception que nous avons nous-mêmes maintenant de notre propre ville. Comme Cunqueiro, j'affectionne tout particulièrement le silence et la solitude. Par ailleurs, j'aime aussi les longues promenades dans cette douce ville. C'est un plaisir pour moi de vous accompagner, mais je ne vais pas le faire toute seule, car j'ai bavardé avec quelques voisins et ils sont partants pour évoquer quelques souvenirs et histoires de la vie de Cunqueiro. Vous verrez ainsi que Mondoñedo continue d'exister sans Cunqueiro, ou bien que si la ville est toujours là, c'est parce qu'on la voit et l'écoute encore comme Cunqueiro nous l'a enseigné. Allez, nous allons commencer. Nous vous invitons à sortir de l'office de tourisme, descendre vers la droite et avancer jusqu'à la balustrade en pierre qui donne sur la Praça da Catedral. D'ailleurs, c'était l'ancienne mairie, et depuis le balcon qui donne sur la rue, Cunqueiro a prononcé le 25 juillet 1931 son discours dans lequel il disait « Dans la place courbe, en pente, attend la Réunion. Entreprenons le voyage vers elle très tôt. La mélodie du chant des oiseaux est la brièveté du chemin. Cette brièveté qui s'obstine à être la simplicité qui nous amènera vers cette courbe métaphysique de la place. Cet endroit est donc idéal pour commencer. » Vous êtes sur la balustrade? Si vous regardez derrière vous, vous verrez la statue de l'écrivain assis sur un banc en pierre. La voyez-vous? C'est l'œuvre de Juan Pujades, un sculpteur de Valence arrivé à Mondoñedo en 1960 et qui fut happé par son brouillard.
C'est mon mari qui a fait cette sculpture de Álvaro. À l'époque, mon mari était professeur de dessin ici et son atelier se trouvait là. Auparavant, c'était une étable. Mais comme les portes ne permettaient pas de sortir des grandes sculptures, il a réalisé dans les garages, sans lumière à peine. Álvaro avait un ami, Cuco Camarena, qui venait voir l'avancement de l'œuvre et il faisait des remarques à mon mari. Par exemple, Álvaro avait les oreilles plus grandes. Arrivait ensuite quelqu'un d'autre, souhaitant ajouter également son grain de sel. Álvaro ceci, Álvaro cela. Au final, mon mari était au bord de la crise des nerfs avec les fichus et sculptures.
Ce n'est pas un hasard si elle est placée là. Cunqueiro venait ici l'après-midi pour contempler le coucher du soleil derrière le bois de Silva, pour vérifier si le coucou avait commencé à chanter ou voir les campanules fleurir en hiver, ce qui n'arrive qu'ici. Regardez vers la place, depuis la balustrade. Vous apercevrez le bois de Silva, au fond à droite, derrière les toits des maisons.
Les bois de Silva avait joué un rôle important dans sa vie, et d'ici, la statue domine l'horizon avec la cathédrale et les bois. En plus, elle fut conçue de manière à ce que les gens puissent la toucher, s'asseoir à côté, l'écouter.
À Mondoñedo, tout le monde sait qu'il venait et s'asseyait ici, et tout le monde connaît le lien particulier qui unissait Cunqueiro à ce bois. C'était l'une de ses forêts littéraires.
Le bois de Silva est un espace qu'on associe beaucoup à Cunqueiro. Tout le monde a lu des articles dans lesquels il parle du bois de Silva. Tout le monde sait qu'il allait s'y promener avec Opazarego pour tenter de transporter les notes du chant du merle.
Maintenant, tournez à gauche et continuez à marcher jusqu'au bout de la balustrade. Ensuite, descendez la rampe. Nous allons faire le tour de la cathédrale par derrière. L'anecdote racontée par Angel, cette volonté d'identifier les notes du chant des oiseaux, est l'une des aventures les plus extravagantes de Cunqueiro et de son grand ami, Opayarego, barbier, violoniste, mécène et correspondant pour le journal Progresso de Lugo. Et ils n'en sont pas restés là. Ils ont essayé de faire la même chose avec les cigales et les crapauds, qui chantent en tierce comme le coucou. Remedios, la fille d'Opayarego, m'a confié entre éclats de rire qu'elle conserve encore des portées avec les notes prises pendant leurs excursions.
C'était deux joyeux Laurent. Cunqueiro aimait bien les titigés et l'autre n'était pas en reste. Il lui a envoyé une pique et il lui a dit « On doit harmoniser les chants du coucou et du merle ». Ils sont longtemps tergiversés avant de se décider à y aller un jour. Et ils ont fini par créer une harmonie.
Je suppose que devant le mur de la cathédrale, vous avez tourné à gauche. Avancez jusqu'à la Plaza do Seminario. Mondoñedo est une ville pleine de musique et le silence existe ici et perdure pour que nous puissions l'entendre résonner sur les murs ou échapper des fentes qui le lézardent. Cette rue rend hommage à Pascual Beiga, un musicien, compositeur et directeur d'Orphéon, né ici même. Il a été enfant de chœur de la cathédrale, sous la direction de José Pacheco, un autre musicien local qui fut maître de chapelle dans la cathédrale pendant les années 60 du 19e siècle. Dans la procession connue sous le nom de Soledade do Benres Santo, on chante encore à Mondoñedo son Plorans. En voici un extrait. Pour en revenir à Pascual Beiga, il est né dans la dernière maison de cette rue, à gauche. Il y a une plaque commémorative. Une fois arrivé, arrêtez-vous un instant devant la façade. On dit que, un jour, en sortant de la cathédrale, Maître Pacheco a entendu des gamins qui jouaient dans ses rues et a été surpris par une voix de soprano qui s'avérera être celle de Pascual Beiga. Il l'a invité à faire partie des choristes et il a commencé sa formation. Mais il n'a pas vécu à Mondoñedo longtemps, puisqu'en 1864, il a quitté la ville pour ne jamais y revenir. Remedios m'a raconté qu'il était parti à cause d'un chagrin d'amour, d'un amour impossible. Nous allons faire une halte devant cette dernière maison.
Pascual Beiga marchó de Mondoñedo también airado, eso sí que, porque, pero bueno, porque él era pobre, estaba enamorado.
Pascual Beiga a quitté Mondoñedo furieux, car il était tombé amoureux de Eustorgia, un amour contrarié puisqu'il était pauvre et elle de la haute société. Il est parti et n'est pas revenu de son vivant.
Por así decirlo, él marchó de aquí y nunca más volvió hasta que otros llegaron al panteón.
À l'époque, on surnommait Eustorgia la petite française car quand elle était jeune, elle montrait son esprit rebelle dans sa façon de s'habiller, souvent provocante. L'amour de Pascual et Eustorgia fut un amour impossible. Mais aujourd'hui, elle repose dans le mausolée familial, au sein du vieux cimetière, à quelques mètres du monument funéraire où fut transférée la dépouille de Pascual Beiga en 1912. Continuons la visite. Au bout de la rue, à droite, vous devez apercevoir le grand édifice du séminaire Santa Catarina. Nous allons tourner à droite pour parcourir la place située devant. Une fois arrivés au bout, nous allons tourner à nouveau à droite pour emprunter la Rua da Fonte. Même si Alvaro Cunqueiro n'a pas étudié au séminaire, beaucoup de ses amis s'y sont formés, comme Aquilino Iglesia Alvarinho, ou y ont enseigné, comme Francisco Fanego. On dit même que parfois, Cunqueiro assistait depuis la rue à ses cours de latin pendant que se tenait le marché et qu'un jeudi, malgré le tohu-bohu des clients et des marchands, il entendit la voix du professeur par les fenêtres ouvertes en provenance de la salle du séminaire. Concendere navibus aecor. Les artisans et les paysans se sont tus. Le professeur hurla à nouveau la phrase. Concedere navibus aecor. On a entendu ensuite dans toute la place son explication. Virgiliano, s'embarquer, mettre les voiles, prendre la mer en bateau. Remedios se souvenait également d'une autre histoire.
Dans le séminaire, il y avait des livres interdits et il était défendu de les passer. Gamayo m'a raconté que les séminaristes de l'époque, pour les livres qui étaient interdits, avaient un panier avec une corde. Alors, ils allaient tous les deux, Álvaro et mon père, la nuit, et ils descendaient les paniers pour faire monter un livre et ainsi de suite.
De noite, entonces baixaba cesto, subía al libro y andaba cesto así.
Par ailleurs, c'est ici qu'en 1961, Cunqueiro, élu à l'Académie royale galicienne, a prononcé son discours de réception qu'il intitula « Quelques imaginations sur les trésors », des histoires qui lui étaient familières depuis sa plus tendre enfance.
Carmiña racontait que, lorsqu'ils étaient enfants, comme ils étaient cinq à la maison, ils avaient une ou deux bonnes. Je ne me souviens pas très bien. Totona, qui est celle que j'ai connue, ou sa mère parfois, leur lisait beaucoup de contes et Totona leur racontait des histoires de trésors perdus.
Une fois arrivé au bout de la place du séminaire, vous devez prendre à droite, là où se trouve le mur, et continuer à avancer sur 50 mètres environ dans la Rua da Fonte, jusqu'au croisement où se trouve l'ancienne fontaine. Autrefois, pendant les fêtes de la Saint-Luc, célébrées au mois d'octobre, Mondoñedo se remplissait de marchands et de forains. Ils se regroupaient en fonction de leur métier et perpétuaient ainsi, d'une certaine façon, l'esprit médiéval. Mon père me racontait que lorsqu'il était enfant, devant le séminaire s'installaient les vanniers, les potiers et les artisans du bois qui vendaient des sabots et des ustensiles de cuisine. Du côté de Cristo dos Remedios s'installaient les forgerons de Rio Torto. Devant la cathédrale, on trouvait tout type de produits maraîchers et ici, à Fontebella, se trouvait le marché du fourrage, qui servait à nourrir les chevaux qui venaient à la foire. Pour Cunqueiro, toutefois, ce marché était bien plus que ça. Il y a quelques jours, alors que je me promenais dans le quartier avec José Maria, un autre habitant de souche, il me confia la chose suivante.
Pendant des décennies, à la Fontevedra se tenait un marché la veille de la Saint-Luc, où l'on vendait du fourrage pour les chevaux. Ce marché laissait un parfum qui, selon Álvaro Cunqueiro, était aussi intense et beau que celui qui flottait dans n'importe quel marché aux fleurs. Ce n'était pas comme se promener avec Juliette, mais c'était certainement comme se promener avec le parfum de Juliette.
Lorsque vous serez devant la Fontevella, observez-la bien. Comme son nom l'indique, c'est la plus ancienne de la ville. Elle est là depuis le XVIe siècle. Avant, elle comptait deux grands becs et un abreuvoir pour le bétail. Depuis 1968, elle porte le nom de l'écrivain. Maintenant, elle murmure ainsi. Si vous êtes devant la fontaine, regardez légèrement à votre gauche. Dans la deuxième maison de la Rua Álvaro Cunqueiro, la rue qui descend jusqu'au quartier Os Moinhos, est né Álvaro Cunqueiro. Vous la reconnaîtrez par le grand balcon qui orne le deuxième étage. Il y a une plaque à côté de la porte. N'hésitez pas à vous en approcher si vous le souhaitez. Alicia m'a confié qu'elle a entendu dire à Carmé, la sœur d'Alvaro, que quand il était petit, il aimait déjà écrire.
Un jour, la famille appelait les petits Alvaro, mais s'il ne répondait pas. Il était au fond de l'escalier. Quand on lui a demandé pourquoi est-ce qu'il ne répondait pas, il avait affirmé, je ne pouvais pas, j'étais occupé. Je suis en train d'écrire une pièce de théâtre.
Dans le grenier d'une maison voisine, qui borde également cette rue, se trouvait le siège de la maison d'édition Editorial Un. On y a conçu les projets de l'Office lyrique de l'Est galicien, un espace mêlant le réel et le fantastique que Cunqueiro décrivait ainsi. Une boussole, une lumière verte, un fragment de miroir, un tract de propagande communiste écrit en chinois, envoyé à Iglesia Alvarinho par un jeune homme de son village travaillant comme serveur à Shanghai, un tableau de Kiriko, un lévrier russe empaillé avec une jambe en fil de fer et une merveilleuse lucarne, presque insondable. Un dessinateur, un gars formidable, Bévidart, Iglesia Alvarinho, théologien, fabricant de sabots, que confine au nord de toutes parts. Et moi. Non loin de là, il y a un autre endroit fantastique qui a lui aussi influencé le talent d'écrivain de Junqueiro et son riche univers local de personnages et d'histoires. Nous devons retourner vers la fontaine, la laisser à gauche et continuer à avancer quelques mètres dans la Rua da Fonte. Allez-y. Au rez-de-chaussée de la quatrième maison, sur votre gauche, celle qui est à l'angle de la Rua Rigueira, il y avait la boutique de barbier do Paiarego, l'un des meilleurs amis de Junqueiro. C'est lui qui l'accompagna dans sa virée dans le bois de Silva pour trouver les notes chantées par les merles et les mésanges charbonnières. Lorsque vous aurez localisé la maison, arrêtez-vous devant la façade. Il y a une plaque commémorative à côté de la porte. La Barberia do Paiarego était un référent local où se réunissaient les gens du coin, les écrivains et les artistes. Comme je vous l'ai dit, O Paiarego était barbier, chanteur et violoniste, en plus de mécène de jeunes écrivains et poètes.
O Paiarego,
mon père, fut premier enfant du chœur dans la cathédrale dès l'âge de 8 ans. Ensuite, quand il a mué, il y est resté, mais en tant que violiniste. Lorsqu'il s'a ouvert sa boutique de barbier, la musique était déjà présente. Junqueiro, qui était le plus jeune, aimait déjà beaucoup y aller. Il y était toujours fourré.
Junqueiro, qui était un peu plus nouveau, ya y attrayait à estar por allí. Estuvo siempre metido allí.
Et cette boutique, qui se trouvait au rez-de-chaussée, fut une source d'inspiration pour Junqueiro. Il piochait, mélangeait, réécrivait les histoires qu'il écoutait là-bas.
Ensuite, Junqueiro s'est marié et s'est installé à Madrid. Il est revenu en 1948 jusqu'à 1962, après quoi il a travaillé pour El Faro de Vigo. Il me semble. Tous les jours, sans exception, vers la queue des 11h30, je me souviens très bien, et j'ai des photos aussi en hiver, il venait à la boutique. Si mon père était occupé avec un client, il attendait. Ensuite, il se promenait par là-bas sur les trottoirs. Quand il était dans la boutique, il aimait bavarder avec les clients pendant que mon père leur coupait les cheveux. Parfois, il ralentissait ses coupes de ciseaux pour que l'écrivain continuait ses bavardages et les clients se fâchaient. « Allez mon vieux, un peu de nerf, ça prend un temps fou. » À l'époque, Álvaro avait une machine à écrire à la maison. Mais dans la pharmacie de son frère, de Pepe, il y en avait une autre. Alors, quand lui venait une idée chez son ami coiffeur, il s'allait rapidement à la pharmacie pour l'écrire à la machine.
Imaginez la scène. Junqueiro et O Paiarego sortent de la boutique avec une idée folle en tête, fruit d'un quelconque débat sur la mythologie grecque ou sur le mystérieux Pedrón, le guérisseur de Ponte Nova. Ils vont en courant jusqu'à la pharmacie du père de Junqueiro, qui était située au rez-de-chaussée du palais épiscopal, l'édifice qui fait angle en face de la Fonte Bella, sur la rue qui s'enfonce vers la gauche en direction de la cathédrale. Allez-y et faites-y une halte.
Ils avaient une petite boutique, sans prétention, une pharmacie qui coupait tout l'angle de l'évêché.
Dans cette pharmacie, Junqueiro a connu bien d'autres personnages qu'il a inclus dans son livre « École de guérisseurs ». Son père se promenait avec lui dans les bois et il lui a appris beaucoup de choses.
Si nos fichamos un poco en sus libros y en sus artículos, atopamos.
Une lecture attentive de ces livres et de ces articles permet de constater qu'ils sont truffés de descriptions de tout type de plantes. Ce n'est pas un hasard, car on parle bien d'un fils de pharmacien, d'une personne qui, étant enfant, a parcouru avec son père les forêts et les bois des alentours de Mondoñedo, ce qui lui a permis d'acquérir des connaissances botaniques remarquables.
Continuez sur cette rue. elle débouche directement sur la place de la cathédrale. Pour les habitants de Mondoñedo, cette place a toujours été un terrain de jeu.
Sur la place de la cathédrale, nous jouions au football lorsqu'on était gamin. On sortait de nos cours particuliers et il y avait deux groupes. D'un côté, ceux qui allaient au cours de Madame Maria Pernas, dans la maison où est d'ailleurs né Conqueiro. Et de l'autre, ceux qui avaient pour professeur le père de José María Palacios. On jouait au football sur la place de la cathédrale les uns contre les autres.
Continuez à marcher jusqu'à la porte de la cathédrale. Voyez-vous la rosace ? Otero Pedrayo disait que c'était comme une fleur sous-marine. À Mondoñedo, chaque cloche porte un nom. Dans la cathédrale se trouvent Paola et Petra. Quand il y avait des difficultés pendant les accouchements, les futures mères demandaient de les faire sonner. Quant aux cloches de l'horloge, il y a Jeronima qui sonne les heures et Francisca qui sonne les quarts. Jusqu'à récemment, le son des cloches marquait le rythme de la ville. Nous avons encore notre carillon local appelé Esquilón.
Il retentissait avant la messe de 8 heures pour appeler les chanoines et la cloche sonnait progressivement.
Maintenant, faites demi-tour et placez-vous de dos à la cathédrale. En face de vous se dresse la maison où a vécu Conqueiro avec son frère et sa sœur, Pepe et Carminha, entre 1944 et 1961. De droite à gauche, c'est la quatrième maison et la plus modeste.
C'est ici qu'il écrit toutes ses œuvres en galicien, dont Merlin et Familia, As Crónicas, El Survey de Simbad, Escola de Menciñeiros. Elle n'a pas un intérêt du point de vue architectural, mais elle a été importante dans l'histoire de la littérature galicienne.
Conqueiro avait sa chambre au troisième étage. Elle donnait sur l'arrière du bâtiment et sur le bois de Silva. Pendant qu'il écrivait des histoires qui réinventaient Mondoñedo sur sa machine à double clavier, il pouvait entendre le chant du coucou de sa fenêtre.
Il écrivait au deuxième étage, où il avait une pièce consacrée à cet effet, avec vous, sur les bois de Silva où il aimait se promener. Après avoir écrit quelques pages, il descendait en pyjama et venait fourrer son nez dans la cuisine pour s'assurer, par exemple, que je n'avais pas oublié d'ajouter les pommes au rayon. Il donnait toujours son avis en cuisine. Les gens pensent que Álvaro était glouton, mais ce n'est pas vrai. C'était un homme frugal, mais épicurien et fin gourmet, qui apprécie les bons petits plats. En aucun cas, un goinfre.
Je pourrais passer des heures sur cette place, à regarder le temps passer. Mais nous devons continuer. Dirigez-vous à l'angle droit de la place et sortez en montant les quelques marches devant vous. Avant, il n'y avait pas d'escalier. Le sol de la place était au même niveau que celui des arcades. C'était un lieu de promenade.
En face de la cathédrale, il y avait autrefois un endroit où la fine fleur de la ville aimait se promener. Un groupe de musique y jouait tous les dimanches matins et ces gens de la haute société aimaient s'y rendre pour être vus. Les hommes portaient une chemise au col à midonné et les demoiselles étaient parées de leurs plus beaux satures.
La camisa almidonada, el cuello almidonado y las señoritas luciendo sus galas.
Nous allons sortir de la place et continuer à marcher le long de la Rua Lence Santar qui monte à gauche. À l'intérieur de la pharmacie qui se trouve sur votre droite, il y a quelques pots en céramique qui avaient appartenu au père de Conqueiro. Cette rue commémore un personnage très cher de la ville. Il fut historien, ethnographe et journaliste autodidacte et vécut dans la dernière maison en amont à gauche. Continuez à marcher pour l'atteindre. Nous allons y faire une halte.
Eduardo Lence Santar fut le premier chroniqueur officiel de Mondoñedo. Cette personne fort singulière portait une très longue barbe blanche. Il n'avait pas de formation académique, mais il était très curieux et le passé de Mondoñedo le passionnait. Une fois, il a demandé à Conqueiro et à un ami de mesurer le périmètre de l'ancienne muraille médiévale. Il avait besoin de cette information pour écrire soi-disant un chapitre de son guide de la très noble, loyale et fidèle ville de Mondoñedo. On ne sait pas vraiment s'il écrit ce guide, mais une chose est sûre, il n'a pas été publié. Le lendemain de cette virée, Eduardo, qui vivait à deux pas de là, derrière les maisons voisines, lui a dit « J'ai écrit le chapitre du guide en indiquant les maîtres que vous avez mesurés. Vous êtes entré dans l'histoire. »
La maison de l'Ense Santar est celle qui est adossée au nouveau marché couvert. Vous y êtes ? Bien, nous allons y faire une pause et ensuite nous emprunterons la Rua Pacheco. C'est cette ruelle en pente qui va vers la droite. Angel m'a raconté une histoire qui est liée à l'arrière de ces maisons, de la Praça da Catedral, que l'on voyait depuis cet endroit, avant la construction du nouveau marché.
À casa de miña abuela, donde vivent minhas tías, por la parte de antes.
En fait, les fenêtres de la façade principale de la maison de ma grand-mère, où vivent mes tantes, donnaient sur l'arrière de la maison de Conqueiro avant que le marché couvert ne soit construit. Parfois, Conqueiro sortait à la fenêtre lorsque mes tantes faisaient l'étage ménagère dans ses chambres et il les saluait avec un mouchoir blanc. Je me suis toujours dit qu'une de ces fois, Conqueiro était peut-être en train d'écrire la scène de son Hamlet dans laquelle Polonius dit au revoir à son fils depuis la chambre du château d'Eisener. J'ai toujours aimé relier cette image de Conqueiro avec son mouchoir saluant mes tantes, avec le Hamlet qu'il pouvait être en train d'écrire à l'époque. Mais tout cela, ce sont des souvenirs évoqués par mes tantes. Je n'ai jamais eu la chance d'assister à ces scènes de la vie quotidienne.
Vous pouvez à présent continuer la visite. N'oubliez pas d'emprunter la rue qui monte, à droite. Elle porte le nom de Maître Pacheco, dont j'ai déjà parlé. Nous allons nous arrêter un instant devant un bâtiment situé un peu plus loin, après le virage, à votre droite. C'est l'immeuble dont la porte est couronnée d'un arc. Il a accueilli l'école des ouvriers catholiques, où Conqueiro étudia lorsqu'il était jeune. Ses camarades étaient des enfants d'artisans et d'ouvriers. C'est pourquoi il a dit un jour que toute la ville était sa famille, car depuis sa plus tendre enfance, il fréquentait tous les milieux.
Álvaro était scolarisé dans cette école de la Société des ouvriers catholiques, où se trouve aujourd'hui le centre de la jeunesse.
Le père de Conqueiro fut président de la Société des ouvriers catholiques qui a accueilli une école pendant des années. Conqueiro y a été scolarisé jusqu'à ses 10 ou 11 ans. Ensuite, il a continué ses études à Lugo.
Le bâtiment abrita également une des deux salles de cinéma que comptait Mondoñedo.
À Mondoñedo, il y avait deux salles de cinéma, Pacheco et Principal. Nous allions aux séances pour enfants à 17h et Machin chantait. On s'amusait comme des fous là-bas. On me donnait 10 pesetas. Le cinéma coûtait 8 pesetas, il me semble. Et ensuite, il y avait toujours là un gamin qui faisait la manche pour pouvoir entrer lui aussi.
À présent, continuez à monter la rue jusqu'au carrefour suivant où se trouve le couvent des Conceptionnistes. Empruntez ensuite la rue qui part à droite, c'est la Rua Concepción. En hiver, lorsque la pluie tombe et les cloches sonnent, ces ruelles étroites se remplissent des échos d'un art de vivre la ville qui ne reviendra plus.
L'arrivée de l'hiver voyait revenir les temps pour tuer les cochons. À l'époque, à Mondoñedo, on engraissait des porcs dans toutes les maisons. Carmiña tuait également un cochon et il fallait toujours que Álvaro soit là, parce qu'il y participait activement.
En ces temps-là, la vie des femmes et celle des hommes était bien différente. Les femmes devaient se contenter d'observer de loin, comme de simples spectatrices, le monde qui les entourait.
J'ai gardé mes émotions pour moi. Je n'ai participé jamais. C'est un miracle si je n'ai pas le nez aplati parce que j'ai passé des heures dans la galerie à observer les passants. Et je peux vous dire que ça a été riche en leçons, comme un livre ouvert sur les comportements des gens dans la rue.
Après le bureau de poste, vous n'avez pas d'autre choix que d'avancer vers la droite et d'emprunter la Rua Concepción. C'est là que Manolo Montero, qui n'était pas encore le magicien Merlin, personnage de son œuvre Merlin et Familia, avait sa librairie, transformée aujourd'hui en musée. Cunqueiro a dit de lui que c'était son libraire de confiance.
Cunqueiro venait souvent me voir, nous étions très amis.
De Merlin y Familia. Me venía a ver mucho y éramos muy amigos.
Mondoñedo était un microcosme où vivaient tout type de personnages singuliers et derrière chacun d'eux se cachait une histoire.
Ils sont nombreux à être restés gravés dans la mémoire collective de la bourgade. Opanchito était vraiment un curieux personnage. Figurez-vous qu'il allait jouer aux cartes avec sa poule. Il avait une poule appelée Coco. Il y avait aussi Lamparillas, Takataka. Lamparillas était vêtu de haillons, mais arborait toujours des médailles. À l'époque, pendant la célébration du couronnement de la Vierge de Remède, les autorités, l'évêque, enfants, toute la fine fleur de Galice venaient assister aux festivités. Alors que tous les sièges étaient prêts, il s'est assis avant tout le monde. Deux gardes municipaux ont dû les déloger. Lui, avec toutes ses médailles, s'est croyé au-dessous de tout le monde.
Nunha butaca daquelas pobreñor apañoso de todo, viñendo os municipales a levantalo e ele arrastrando polo campo adiante. Ai, 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 ai. Porque sacaban dali porque ele se consideraba, con todas aquelas medallas, más que naide.
La rue que vous parcourez débouche sur la place de la mairie. Avant de continuer, nous allons faire une petite halte à côté de ces marches qu'il y a au début de la place. Voyez-vous cette rue qui descend à droite en direction de la cathédrale? C'est la Rua Progresso. Là, en plus du Café Madrid, où Panchito allait jouer aux cartes avec sa poule Coco, se trouvait l'imprimerie des successeurs de Mancebo, un endroit qui a joué un rôle essentiel dans l'activité journalistique de Cunqueiro à Mondoñedo.
Si vous lisez les articles de Cunqueiro, vous trouvez une quantité d'informations qui prouvent une grande érudition. Il y a même des gens qui disent que ces articles sont le fruit d'un profond processus d'élaboration. Mais ce n'est pas vrai, car il écrivait ces articles à la vitesse exigée par le journal. Tous les matins, Cunqueiro affirmait que son article était prêt, alors qu'en fait, il n'avait pas même écrit un brouillard.
Maintenant, continuez à marcher sur la place, direction la mairie, cet édifice en pierre que vous voyez au fond, là où la rue devient plus étroite. Pendant que vous traversez la place et atteignez le parvis de l'Iglesia Nova, je vais laisser la parole à Fernando, l'actuel propriétaire de l'imprimerie. Il va vous raconter comment l'activité journalistique de Cunqueiro était parfaitement liée au rythme de l'imprimerie.
Il venait ici écrire les articles pour la Voce de Galicia. Il arrivait vers 15 ou 16 heures et ensuite il l'envoyait par une voiture de l'entreprise sur Ribadeo. Il arrivait, demandait du papier, une enveloppe, écrivait rapidement et l'envoyait direction la Corogne. Et il écrivait dans l'imprimerie, même s'il devait déjà l'avoir en tête, parce qu'il le rédigeait vraiment rapidement.
Visiter l'imprimerie plusieurs fois est un vrai cours d'histoire, car le bruit de ces machines, qui fonctionnent depuis plus de 100 ans, grâce à Fernando, perpétue la mémoire de Mondoñedo.
Quand j'ai commencé à travailler dans l'imprimerie, il n'y avait aucun moteur. Tout était manuel et à pédale.
Ce bruit, c'est l'une des autres musiques cachées de Mondoñedo. On dirait qu'il engraisse continuellement la mémoire collective. Vous êtes arrivé au bout de la place? Ici, plusieurs rues se croisent. Celle qui descend est la Rua do Rei Alfonso VII, qui fonda la ville par amour. Le dernier mot qu'il prononça avant de mourir fut Mondoñedo. Devant vous doit se dresser l'église paroissiale Santiago. Tous les habitants la connaissent sous le nom de Nouvelle Église.
Sur le parvis de l'église nouvelle, il se promenait souvent avec des amis. Il faisait des allers-retours comme il était coutume dans la bourgade. Ça ne se fait plus. Imaginez, 2 heures à tourner autour de l'église.
Bon, nous allons récupérer cette coutume et faire tout le tour de l'église. Ouvrez la grille et empruntez le sentier battu par les autres flâneurs à droite de la façade. D'ici, derrière l'église, il y a des vues magnifiques sur les alentours de Mondoñedo. Soudain, c'est comme si vous étiez en dehors de la ville, perché sur un mirador isolé. Il y a quelques décennies, on aurait pu croiser Cunqueiro en balade avec l'un de ses amis.
Il aimait être dans la rue. Il se promenait avec beaucoup de gens, avec Opazarego par exemple. Il se baladait tous les jours. Il fréquentait les tavernes, il allait au casino, il parlait beaucoup, il n'était pas introverti. Il y a une photo avec Bernardino Vidarte devant le parvis. Cet endroit me rappelle beaucoup Cunqueiro.
Il avait pour habitude d'écrire, d'être à la maison, descendre en paix. Ensuite, il s'habillait, se rendait à la poste, allait faire un tour avec Juanito. Et l'après-midi, je suppose qu'il faisait la même chose. Juanito était juge, un homme très atypique, qui flânait. Ils étaient très amis, et Mancharin Cabanella également. Il se promenait par ici.
Il se promenait dans les rues avec Juan Mong. Ils avaient tous deux une voix qu'on entendait de loin. En fait, on entendait leur voix dans tout Mondoñedo.
Après avoir fait le tour de la nouvelle église en sortant du parvis, fermez la grille. Maintenant, dirigez-vous à droite et empruntez la Rua Lodeiro Pinheiroa. Continuez ensuite tout droit, en prenant toujours à droite, sur la Rua Julia Pardo Montenegro. Je vais vous accompagner jusqu'au vieux cimetière, qui est à environ 200 mètres. Pendant des siècles, ce fut le seul lieu d'enterrement de la ville, et aujourd'hui, il s'agit plutôt d'un jardin consacré à la mémoire de nos ancêtres. Dans le vieux cimetière est enterré Cunqueiro. Comme je vous l'ai dit, je suis née le jour même de son enterrement et j'ai entendu parler de lui plusieurs fois. Ce fut sûrement un jour mémorable. Toute la bourgade et une partie représentative de Galice étaient ici réunies sous une pluie battante et dans un profond silence.
J'avais alors 16 ans et j'avais lu beaucoup d'œuvres de Cunqueiro. Je l'aimais beaucoup, mais je ne le connaissais pas. Son enterrement m'avait impressionné. C'était un après-midi pluvieux, le ciel était gris, toute la place était remplie de parapluies noirs.
Ensuite, les habitants de Mondoñedo ont transporté le cercueil de Cunqueiro en empruntant cette rue que vous parcourez en ce moment. Parfois, je m'amuse à dire à mes amis qui n'habitent pas à Mondoñedo que cette ville est inondée et occulte et qu'il faut une formule magique pour en sortir. Inondée parce que parfois la nuit, le son des ruisseaux qui traversent le quartier des Muiños envahit le reste de la ville. Ne sentez-vous pas l'eau qui file sous vos pieds ? La formule magique de Cunqueiro pour sortir de Mondoñedo fut Merlin et Familia. Les 20 dernières années de sa vie, il les a passées à Vigo. Mais avant de mourir d'une longue maladie, il a voulu revenir à Mondoñedo pour flâner sur les sentiers autonomes. Il disait toujours qu'ici, les eucalyptus n'avaient pas encore gagné la bataille aux forêts anciennes à feuilles caduques. Cunqueiro est mort à Vigo avant d'avoir revu Mondoñedo. Il n'est pas arrivé à temps. Tout comme Rosalia n'a pas pu voir la mer pour une dernière fois depuis la fenêtre de sa chambre dans sa maison de padrone. La Rua Julia Pardo finit par sortir de la ville. Après la dernière maison, qui borde le trottoir gauche de la chaussée, vous verrez apparaître le mur enduit à la chaux de l'ancien cimetière. Continuez à marcher jusqu'à la petite porte qui s'ouvre dans le mur de pierre. Une fois devant, entrez, montez les marches et sur le premier palier, tournez à droite. C'est la zone civile du cimetière. Le premier panthéon que vous verrez est celui du médecin et poète Manuel Leiras Pulpeiro. Nous ferons une halte devant lui pour écouter ce que José María et Remedios m'ont raconté.
Leiras Pulpeiro, médico.
Leiras Pulpeiro était médecin, poète et un républicain anticlérical. Il est enterré au cimetière civil de Mondoñedo. Il repose dans la partie civile, mais sur sa pierre tombale, il y a eu au moment de sa mort une part religieuse. Car on dit qu'après son décès, les gens des alentours, reconnaissant envers le travail de l'émérite médecin, venaient la nuit, sautaient le mur et laissaient des sacs de terre du cimetière de leur paroisse pour que le médecin pour lequel ils avaient autant de gratitude ne soit pas, disons, en terre étrangère.
Vignan pour la noite, saltaban au mur et deixaban bolsas de terre dos camposantos de suas parroquias para que o médico o que tanta gratitude lle profesaban non estivese en terra, digamos, allea.
Comme vous le verrez, la tombe de Leiras est l'une des seules qui reste. Mais ici, on enterrait aussi des bébés qui mouraient à la naissance sans avoir été baptisés.
Tiraron a parede que separaba os dos.
Maintenant, on a démoli les murs de séparation parce qu'à côté se trouvaient les anges, les petits qui mouraient. Maintenant, il y a été détruit. Mais avant, il y avait une séparation totale. Il y avait une porte d'entrée. À côté de sa tombe, il y avait une tombe qui n'est plus là. Celle d'un couple, les Carreira, avec qui il était très ami. On dit qu'à l'avènement de la République, Carreira se rendit au cimetière, frappa la pierre tombale en criant « Leiras, mon cher Leiras, la République est là. »
Nous allons faire une petite promenade dans le cimetière. Laissez le panthéon de Leiras derrière vous et continuez à marcher sur ce sentier gris qui s'enfonce à gauche et débouche sur des marches. Ici commence le cimetière catholique où se trouvent la plupart des panthéons des familles des personnes dont nous avons parlé pendant notre visite. Pacheco, Opayarego, Lence Santar, Pascual Veiga, Estorgia, très près de lui. Et bien sûr, c'est aussi là que repose Cunqueiro. Descendez les escaliers. Une fois en bas, à droite, vous verrez une autre des entrées du cimetière. Et si vous regardez à gauche, vous verrez les escaliers de l'accès principal. Montez les marches. Un peu plus haut, vous laisserez à droite le panthéon que les Galiciens émigrés ont fait construire pour Pascual Veiga. À présent, tournez à gauche et ensuite continuez tout droit, parallèlement au mur de niche funéraire qui est à votre gauche. Celle de Cunqueiro est l'une des dernières. Elle est en bas, au ras du sol. L'avez-vous localisée? Pouvez-vous lire l'inscription de sa pierre? C'est un cri d'espoir. Quelques mois avant de mourir, il avait prononcé un discours dans un hommage qui avait été organisé à Vigo et il a raconté, ému, le souvenir qu'il aurait aimé laisser après sa mort. Écoutons-le de sa propre voix.
Dice me quero que a falla galega durasse e continuasse.
J'ai voulu et je veux que la langue galicienne perdure et se perpétue, parce que si notre langue se perpétue, notre peuple a une chance de perdurer. J'ai voulu que la Galice perdure, et à côté de la patrie terrienne, de la patrie qui est la terre et les morts, il y a cette autre partie qui est notre langue. Si on voulait faire de moi un éloge après ma mort, à l'heure où je nourrirai cette terre qui est la nôtre, l'épitaphe gravée sur mon tombeau pourrait être le suivant. Ici gît quelqu'un qui, avec son œuvre, a fait que la Galice perdure 1000 printemps de plus.
Podría decir en miña lápida, aquí ya alguien que con su obra fixo que Galicia durase 1000 primaveras más.
Depuis, cette phrase de Cunqueiro, immortalisée sur sa tombe, est le vœu formulé et partagé par plusieurs générations. La langue, c'est ce qui nous relie à la terre et ce qui nous fait perdurer dans le temps, en la transmettant comme héritage commun à nos enfants, afin qu'elle continue à façonner nos rêves chaque printemps. C'est ici que s'achève notre promenade. Merci de m'avoir accompagné. J'espère qu'à présent, notre ville est également un peu la vôtre.
N'oubliez pas que pour déposer le lecteur MP3, vous devez vous rendre à l'office de tourisme. Vous ne risquez pas de vous perdre. C'est le point de départ de cette visite, à côté de la place de la cathédrale.
La voix de la narratrice de ces deux guides est celle d'Aurélie Garrigue. Les voix des habitantes et habitants qui ont participé sont, par ordre d'intervention, celles d'Alicia Puchades, Ángel Redruello, Remedios Ledo, José María Palacios, Manolo Montero et Fernando López. L'édition et la post-production du son étaient à la charge de Jacobé Martínez Antelo. La documentation et le scénario sont signés chez Susurrón. Ce travail n'aurait pas été possible sans la participation de Claudia Del Pino.